Radio Kapi.
Oh, Kapi. Le journal.
Patience Ngalula Mbombo.
Au sommaire de ce journal, le chef de l'État réaffirme sa détermination inébranlable à défendre le territoire national et à rétablir la paix. Il l'a dit samedi dans son discours à l'occasion de la commémoration du 64e anniversaire d'indépendance de la RDC, faisant référence à la tombée de la cité de Kanyabayonga et des localités avoisinantes dans les mains du M23 soutenu par le Rwanda. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur reçoit ce lundi les gouverneurs du Haut-Katanga et celui de Kinshasa. D'après plusieurs sources, les deux ont été convoqués car ayant violé la constitution dans la formation de leur gouvernement. À ce sujet, Justicias Bell a, dans un communiqué de presse publié samedi, demandé au vice-premier ministre de l'Intérieur de faire respecter la constitution. L'invité de ce journal est Georges Moulumba, directeur général de la Bibliothèque nationale. À l'occasion du 64e anniversaire de l'indépendance de la RDC, il affirme conserver encore les œuvres d'esprit datant d'avant, pendant et après l'indépendance. Il l'a dit dans un entretien accordé à Radio Okapi. Bonjour. Le président de la République rassure les populations des Kanyabayonga et des localités avoisinantes tombées entre les mains du M23 soutenu par le Rwanda de sa détermination inébranlable à défendre l'ensemble du territoire national et à rétablir la paix. Félix-Antoine Tshisekedi l'a dit samedi au cours de son discours à l'occasion du 64e anniversaire d'indépendance de la RDC. Il a aussi expliqué que les défis sécuritaires auxquels le pays est injustement confronté est complexe et exige une réponse collective, courageuse et déterminée de tous. On écoute Félix-Antoine Tshisekedi. Ses propos ont été recueillis par Alain Hurong.
En cette journée sacrée de notre indépendance, je ne peux passer sous silence la grave situation sécuritaire qui secoue notre pays. Ce qui se passe à Kanyabayonga, à Kaini, au village du sud de Lubero, ainsi que dans les territoires de Rutshuru, de Nirangongo et du Masisi, constitue une agression flagrante contre notre souveraineté nationale et la paix de notre peuple. En ma qualité de président de la République et commandant suprême des forces armées et de la police nationale, je tiens à vous assurer de ma détermination inébranlable à défendre l'ensemble de notre territoire et à rétablir la paix. Nos vaillants soldats sont en première ligne et ensemble, nous triompherons de cette agression injustifiée. À nos frères et sœurs de Kanyabayonga et des régions avoisinantes, je veux exprimer ma profonde solidarité et ma compassion face aux souffrances que vous endurez. Votre courage et votre résilience sont une source d'inspiration pour la nation tout entière. Soyez assurés que je mets tout en œuvre pour rétablir la sécurité et protéger nos concitoyens.
Par ailleurs, le chef de l'État a ajouté, je cite, « Je suis conscient des difficultés sociales que rencontre la majorité des Congolais au quotidien. En ma qualité de garant de la nation, je peux vous rassurer que cette situation me tient à cœur et que rien n'arrêtera ma détermination à y apporter des solutions idoines et urgentes. Aussi ai-je instruit les gouvernements à prendre les mesures nécessaires pour alléger les coûts du panier de la ménagère et améliorer les pouvoirs d'achat de la population. » Fin de citation. Pendant ces temps, des mesures ont été proposées au président de la République pour que les FRDC puissent très rapidement remettre de l'ordre dans l'est du pays et récupérer certaines autres localités occupées par les forces rwandaises. C'est ce qu'a annoncé samedi le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement. C'était à l'issue de la réunion des conseils supérieurs de la défense élargie, présidée par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, à la cité de l'Union africaine. La situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo, avec un accent particulier sur la cité de Kanyabayonga tombée vendredi aux mains du M23, soutenue par le Rwanda, était au menu de cette réunion. On écoute un extrait du compte rendu de cette réunion avec le ministre Patrick Muyaya.
Le président de la République a donc convoqué cette réunion du Conseil supérieur de la défense élargie pour faire le point général de la situation. Évidemment que nous avons parlé de la situation opérationnelle du pays de manière générale dans toutes les trois zones de défense, mais il y a eu un accent particulier qui a été mis sur les événements de Kanyabayonga. Après près de trois heures de discussions et un tour d'horizon avec les différentes autorités militaires, des perspectives et des mesures ont été proposées au président de la République pour que les forces armées de la République démocratique du Congo puissent très rapidement remettre de l'ordre dans cette partie du pays et reprendre certaines autres localités qui ont été occupées par les forces rwandaises, parce que c'est d'elles qu'il s'agit. En même temps, le président de la République a tenu à rendre un vibrant hommage aux forces armées de la République démocratique du Congo qui défendent au prix de leur vie la patrie, et il a lancé un appel à toutes les populations de cette partie du pays, mais aussi à tous les Congolais. D'ailleurs, il y aura un message du 30 juin dans les heures qui suivent. Il aura l'occasion de revenir sur ce que nous tous, nous devons avoir comme attitude en ces moments.
Outre la première ministre Judith Suminwa, accompagnée de quelques membres de son gouvernement, cette réunion a aussi rassemblé les hauts responsables de l'armée ainsi que ceux des services de renseignement civil et militaire. Cependant, sur terrain, au Nord Kivu, une accalmie a été observée hier dimanche sur toutes les lignes des fronts dans les territoires de Masisi et Nyiragongo. C'est après les combats de samedi qui ont opposé le M23 appuyé par l'armée rwandaise contre les combattants Wazalendo, un certain général autoproclamé Maachano à Remaka dans le groupement de Ufamandu, première chefferie des Bahunde en territoire de Masisi. Les sources de la société civile dans la chefferie des Bahunde qui confirme les faits, affirme également que des tirs sporadiques qui n'ont duré qu'une dizaine de minutes ont été entendus ce dimanche matin dans le secteur de Kimoka, au nord-est de la cité de Sake, toujours sous occupation des rebelles. Dans les territoires de Nyiragongo, la situation reste calme et chaque belligérant maintient et consolide ses positions selon la société civile locale. De son côté, l'opposant Martin Fayulu appelle les Congolais à la mobilisation générale pour défendre l'intégrité nationale telle qu'éléguée par les colons belges en 1960. Il a lancé cet appel dans sa déclaration faite hier dimanche à Kinshasa à l'occasion de la célébration des 64 ans d'indépendance de la RDC. Par ailleurs, les candidats malheureux aux présidentielles de 2018 et 2023, Martin Fayulu, a prôné la tenue des élections transparentes et apaisées. Il est selon lui persuadé que ce genre de scrutin donneront au pays des dirigeants légitimes et capables d'assurer le bien-être de la population. Les propos de Martin Fayulu sont recueillis par Blaise Ndonga Lamayanda.
Le pays a besoin de la cohésion nationale. Nous devons nous réunir avec toutes les parties prenantes sous l'égide de nos pères spirituels afin de trouver des solutions adéquates pour défendre notre pays contre les agressions extérieures et également garantir des élections transparentes, impartiales et apaisées qui permettront au pays d'avoir des dirigeants légitimes. Il ne s'agit pas de partager le pouvoir, mais de sauver le pays de la balkanisation, de mettre fin aux crises politiques récurrentes et d'assurer le bien-être de notre peuple qui souffre. Au regard des défis géopolitiques et géostratégiques actuels du monde, nous devons donner au Congo-Kinshasa la place qui lui revient dans le concert des nations. C'est notre responsabilité collective.
L'opposant Moïse Katumbi, quant à lui, se demande s'il est vraiment opportun de célébrer cette journée, vu, selon lui, la souffrance globale dans laquelle vit les Congolais. Il l'a dit samedi dans un message posté sur son compte X. Si les arbres et les oiseaux ont droit à la vie, ce n'est malheureusement pas le cas pour les Congolais, notamment ceux qui sont dans l'est de la RDC, dit-il. On écoute Moïse Katumbi dans ses propos recueillis par Alain Rung.
Le Congolais est devenu mendiant dans son propre pays. Le Congolais n'a plus de route, n'a plus d'électricité, de l'eau potable. J'étais en train de voir les oiseaux en train de grignoter. Mais mes frères et sœurs dorment dehors. Mes frères et sœurs sont en train d'être tués tous les jours à l'est du pays. Et j'étais en train de réfléchir. J'ai dit, trop de promesses, trop de discours inutiles. Mais on oublie son peuple. Et nous devons tout faire, comme le pape Jean-Paul II l'avait dit, n'ayez pas peur. Nous allons nous mettre ensemble pour que cette situation change. Nous sommes un pays riche, mais la population est très pauvre. Aussi, je pense à la joie de nos pères d'indépendance. Quand on a eu l'indépendance en 1960, c'était des hommes valeureux. Ils aimaient leur pays. Aujourd'hui, je me pose la question si nous pouvons encore fêter le 30 juin. Si je pense à mes frères et sœurs de l'Est qui sont en train de mourir chaque jour.
C'est ce lundi que les gouverneurs du Haut-Katanga et de Kinshasa seront reçus par les vice-premiers ministres et ministres de l'Intérieur qui les a convoqués. D'après plusieurs sources, les deux ont nommé chacun dans son gouvernement au-delà des 10 ministres provinciaux, 10 commissaires généraux, ce qui est contraire à la Constitution. À ce sujet, Justicia Asbel a, dans un communiqué de presse publié samedi, demandé aux vice-premiers ministres de l'Intérieur de décourager ce genre d'actes en ramenant tout le monde au respect de la Constitution. On écoute Timothée Mbouya, président national des Justices Asbel, au micro de Jean Gandou.
Justicia demande au gouverneur précité d'annuler toute affaire cessante, ses arrêtés portant nomination des commissaires généraux en violation de la Constitution. Justicia fait constater également que les gouverneurs précités sont animés par la volonté d'avoir des équipes pléthoriques. Ces équipes vont certainement avoir un impact sur les budgets au niveau du gouvernement du Haut-Katanga ainsi que de Kinshasa. Justicia constate également que les gouverneurs ont été victime de pression de la part des autorités morales des partis politiques qui exigent de la nomination de leur ami ou de leur membre de famille. Justicia invite ces autorités morales à cesser d'exercer toute influence négative sur le fonctionnement des gouvernements provinciaux. Justicia encourage également les vice-premiers ministres et ministres de l'Intérieur à frapper encore dur contre les gouverneurs qui seraient tentés de violer les dispositions légales. Justicia encourage les autres gouverneurs qui n'ont pas encore publié leur gouvernement provinciaux à se conformer aux prescrits de l'article 198 alinéa 5 de la Constitution.
À Ituri, l'auditorat militaire supérieur près la cour militaire de cette province convoque pour ce lundi Thomas Lubangadilo et Joka Balambi, respectivement président national de l'Union des patriotes congolais UPC et le secrétaire général de cette formation politique. D'après des sources judiciaires, ces acteurs politiques sont invités pour vérification de certains faits infractionnels liés à la sécurité de l'État mis à leur charge. C'est à la suite d'une plainte déposée par l'armée mercredi dernier à l'auditorat militaire supérieur de l'Ituri. Pour rappel, il y a une semaine, dans une déclaration faite devant la presse, les partis politiques UPC avaient dénoncé l'échec de l'état de siège 3 ans après son instauration par le chef de l'État, avant d'affirmer que leur président Thomas Lubanga est victime de la stigmatisation de la part du gouverneur des provinces qui les qualifierait de criminels. Vous le savez, la clôture officielle de l'année scolaire 2023-2024 intervient ce mardi 2 juillet par la remise des résultats scolaires aux élèves. En Mbandaka, le préfet du secondaire a lancé depuis samedi une campagne de lutte contre les inscriptions frauduleuses. Une des causes de la baisse de l'enseignement ont-ils reconnu et dont ils sont aussi accusés d'être responsables. Ils l'ont dit à l'issue de leur réunion de clôture et d'évaluation des activités annuelles. Basile Moussebi, le coordinateur de préfet de Mbandaka, revient sur la stratégie adoptée au micro de Paul Richard Malingela.
Par rapport à ça, nous venons de prendre une décision selon laquelle nous allons mettre fin au passage frauduleux des classes. L'enfant qui a échoué dans telle école, dans telle classe, fini, l'enfant ne peut plus avoir accès à une classe supérieure si nous préfets, nous nous mettons ensemble.
Vous le dites, mais comment concrètement vous allez contrôler ?
Les instructions sont très claires. Je vais parler du palmarès parce que c'est là où il y a la clé de ce que nous allons prendre comme disposition. Quand chaque préfet se met à donner un palmarès sincère, que tel enfant a été dans telle école, il a à la fin de l'année scolaire une mention réussite ou échec. C'est fini. Et le palmarès circule dans tous les bureaux gestionnaires. Il n'y aura pas un parent qui viendra jouer avec la mention qu'on a déjà donnée. L'enfant a échoué. Quand il vient pour l'inscription, le palmarès va témoigner que l'enfant a échoué. Il ne peut plus être accepté à une classe supérieure l'année prochaine.
Sans plus tarder, rendons-nous dans la province du Kwilu, où le nombre des morsures des chiens n'est fait qu'augmenter à Mateko, dans la zone de santé de Mokala, en territoire du Diofa. À ces jours, plus de 70 cas sont enregistrés, dont 3 décès au cours du mois de juin. Le chef des divisions provinciales de la santé du Kwilu, qui alerte, indique que parmi ces cas, une cinquantaine a présenté les signes de la rage comme les céphalées, les agitations et l'hydrophobie. Docteur Jean-Paul Matelo annonce l'arrivée dans les tout prochains jours d'une quantité importante de vaccins antirabiques et de sérums qui sera envoyé par l'OMS afin de poursuivre la prise en charge des mordus. Il l'a dit à Irène Mboma.
Nous avons reçu une notification des cas de morsure de la population par les chiens enragés dans la zone santé de Mokala, dans le territoire du Diofa. Et avec nos équipes qui sont sur le terrain, ils nous ont rapporté à ce jour 72 cas de morsure, dont jusqu'à présent 12 cas, mais qui ne présentent aucun signe. Ceux qui étaient avant, jusqu'à 55 cas, ce sont les gens qui présentaient les signes de rage. Nous étions en train de prendre en charge sur base les signes qu'ils présentaient et parmi lesquels 3 personnes, malheureusement, à ce jour, sont décédées. Le décès, nous avons incriminé la rage parce qu'ils ont été mordus par les chiens et puis ils ont présenté les céphalées, la fièvre. Il y en a qui présentaient les agitations ainsi que l'hydrophobie. Au départ, nous avons fait recours au stock de vaccins que nous avions dans la zone santé voisine de Kipoutou qui avait connu la même situation. L'OMS nous a promis 300 doses de vaccins supplémentaires avec aussi des sérums.
Actualité internationale.
Au Gabon, l'ancien président Ali Bongo a stoppé sa grève de la faim, révèle RFI dimanche 30 juin. L'ex-chef de l'État avait cessé de s'alimenter le 14 mai pour protester contre les traitements réservés à son épouse Sylvia et leur fils Noureddin, tous deux incarcérés. Leur avocat dénonçait une séquestration et des actes de torture. Leur entourage s'inquiète d'ailleurs de leur sort alors que lundi 1er juillet commencent les vacances judiciaires.
L'invité.
Le directeur général de la Bibliothèque nationale, Georges Moulumba, affirme conserver encore les œuvres d'esprit datant d'avant, pendant et après l'indépendance. Il a dit dans un entretien accordé à Radio Capi à l'occasion du 64e anniversaire de l'indépendance de la RDC. Ce scientifique reconnaît tout de même éprouver des difficultés dans la gestion de ses patrimoines publics faute d'espace. C'est ainsi que Georges Moulumba demande à l'État d'aider la bibliothèque à faire face aux difficultés d'ordre financier et des mobilités de son personnel. Il s'entretient avec Blaise Ndonga Lamayanda.
Bonjour, professeur Georges Moulumba.
Bonjour.
Quel est l'état des lieux de la conservation des œuvres d'esprit, notamment des photos, des ouvrages, des lettres, des discours d'avant, pendant et après l'indépendance?
L'état de conservation est, de manière générale, bon. Nous essayons de faire des efforts pour conserver ce patrimoine que nous devons transmettre de génération en génération. Et là-dedans, il n'y a pas que les livres. Il y a des photos, il y a des revues, il y a des journaux datant d'avant l'indépendance, de Congo belge, du Rwanda, Burundi. La plupart de nos visiteurs, quand ils arrivent ici, dès qu'on arrive à la photothèque, ils s'arrêtent. De manière générale, l'état de conservation est assez bon. Mais nous vivons à l'étroit. Le bâtiment est étroit. Il date de 1947. Il n'est pas digne d'être appelé Bibliothèque nationale comme on en voit à travers le monde.
Quelles sont les possibilités d'accès à ces œuvres d'esprit?
Vous venez à la Bibliothèque nationale, vous remplissez une fiche, il y a une carte des lecteurs, vous apportez une photo passeport, vous établissez une carte et vous accédez au livre. Avec cette spécificité que les livres ne sortent pas de la Bibliothèque nationale. C'est la consultation sur place. Si vous voulez le faire conserver, vous remettez au responsable, le lendemain, on venait pour continuer la lecture.
Est-ce que les lecteurs paient aussi photocopier une page jugée importante d'un ouvrage?
Pour photocopier une page importante, ça, c'est pas autorisé. Mais il n'est pas autorisé de photocopier tout un livre.
Parmi ces œuvres, est-ce que vous gardez encore les discours historiques comme ceux de Lumumba, Kasavubu, voire Roi Baudouin?
Si, on en a. On a ça ici. On garde très, très jalousement là, ici, la Bibliothèque nationale, le Lumumba, le président Kasavubu, le roi Baudouin, on trouve ça.
Alors, à l'heure actuelle, quelles sont vos diverses difficultés?
Oui, mais les difficultés sont énormes. D'abord, je vous ai dit qu'au départ, Nous vivons à Détroit, ça fait 200, plus de 250 agents sur place ici, mais le bâtiment ne suffit pas. Nous vivons à Détroit, donc il faudrait une grande bibliothèque pour pouvoir mettre tout le monde à l'aise. Mais on travaille par alternance, il y en a qui viennent du jour père, d'autres jours impair. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas assez d'espace. L'espace est réduit. Il nous faudrait une nouvelle bibliothèque nationale. Il faut que l'État puisse construire une bibliothèque aux dimensions continentales. Nous sommes un grand pays, non? Le premier grand pays francophone au monde. La bibliothèque ici ne suffit pas. Donc il faut un grand bâtiment pour pouvoir héberger tout le personnel. Ça, c'est une difficulté. Effectivement aussi, la situation de la bibliothèque nationale. Nous sommes situés dans un quartier stratégique. Nous avons l'ANR de côté, nous avons la présidente de la République. Nous avons la primature de l'autre côté et tout le temps, il y a des militaires. C'est un quartier à haut risque.
À part les problèmes d'espace, est-ce qu'avez-vous d'autres problèmes?
Bien sûr, il y a les problèmes d'ordre financier. Il y a le problème de mobilité du personnel. Les gens ne savent pas parce qu'ils n'ont pas de véhicule de service. J'utilise ma voiture et pour le besoin de service et pour moi-même. Mais le personnel se déplace difficilement. Nous avons la possibilité d'organiser ce qu'on appelle le bibliobus. Sillonner la ville, amener les livres vers les lecteurs. Ils font un bibliobus pour pouvoir placer les livres. Aller à travers aller jusqu'à en Séné, Matété, passer par là pour apporter la lecture à tout le monde. Tout le monde ne peut pas venir ici. Ce sont des moyens qui nous manquent. Nous avons également l'antenne de Kinshasa, la ville de Kinshasa.
Professeur, avez-vous déjà franchi l'étape de la numérisation?
Nous sommes en train de numériser. On est au début. Nous avons eu un scanner de nos amis espagnols. On est en train de scanner quelques livres. On a déjà commencé. On ne peut pas ne pas passer par là. Mais ce n'est qu'un début.
Ah, surtout que nous sommes dans un pays où il fait très chaud. Quand vous gardez les œuvres en papier, ça perd la qualité facilement.
Nous avons le Courrier d'Afrique et d'autres journaux de 1950 et d'autres qui commencent à jaunir. Donc, comme je disais tout à l'heure, le temps, c'est l'ennemi numéro un de papier. D'où l'importance de la numérisation.
Professeur Georges Moulumba, nous vous disons merci.
Merci, merci de la visite, l'honneur que vous me faites. Vous êtes notre croix de transmission.
Et c'est la fin de ce journal, mis en onde par Jean-Noël Mokondo, supervisé et coordonné par Alain Rung-Moshinj. Patience Ngalula Mbombo vous l'a présenté. Merci de l'avoir suivi.